Credo. Une exploration des fondamentaux de la foi chrétienne avec Monseigneur Battu, évêque auxiliaire de Toulouse.
Je crois l'Église. Le texte du symbole ne s'arrête pas à l'Esprit-Saint. Il se prolonge en nous faisant dire « Je crois en l'Église ». Cette affirmation soulève d'énormes difficultés. Essayons de les affronter ensemble. Tout d'abord, la formule « Je crois en l'Église ». Cette formule semble mettre sur un pied d'égalité les trois personnes de la Sainte Trinité et l'Église elle-même. L'Église est-elle vraiment un objet de foi ? Un certain nombre de personnes la ressentent bien plutôt comme un obstacle à la foi. Et la difficulté redouble lorsqu'on énumère ces qualificatifs que la théologie appelle des notes, une sainte catholique apostolique. Une, l'Église, avec toutes ses divisions. Sainte, l'Église, avec tous ses scandales. Catholique, l'Église, avec la prétention romaine à régenter la foi de tous ceux qui se réclament du Christ. Apostolique, l'Église, avec ses compromissions, son masculinisme, son carriérisme, son triomphalisme, et j'en passe. Essayons, malgré ces réticences, ces doutes, voire cette indignation, de nous orienter dans ce qui est dit et de comprendre de quoi il est question. Le problème, en fait, est celui-ci. Comment se fait-il que l'Église, avec tout ce que nous savons ou croyons savoir d'elle, fasse partie du credo ? Que vient-elle y faire en définitive ? Et est-ce qu'on ne pourrait pas l'en sortir, tout simplement ? En premier lieu, demandons-nous pourquoi on nous fait dire « je crois en l'Église ». Je pense personnellement qu'on a à la fois raison et tort. On a raison parce que l'Église fait partie de la foi. Si on voulait l'en retirer, il faudrait censurer les paroles mêmes de Jésus. Exemple, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Vous avez reconnu Matthieu 16, versets 18 et 19. Et les paroles de Paul, qui dit qu'il a persécuté l'Église de Dieu, Galates 1, 13. Ou encore que le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, pour la faire paraître sans tache ni ride ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. Éphésiens 5, 25-27. On pourrait évidemment exprimer le doute que le Christ ait réussi dans cette entreprise, mais on ne trouve aucune trace de ce doute dans le Nouveau Testament, et on voit bien que contester cette réussite du Christ serait contester la réalité du salut de l'humanité elle-même. D'autant que l'Écriture nous dit aussi que le Christ a fait de l'Église son corps, Colossiens 1, 18-24, dont nous sommes les membres, 1 Corinthiens 12, 27. On pourrait multiplier les exemples qui montrent que nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'Église pour retrouver le Christ tout pur, tellement le Christ a tout fait pour que l'Église soit à jamais inséparable de lui. L'Église fait partie de la foi, que cela nous plaise ou non. L'Église fait partie de la foi, mais l'Église n'est pas objet de foi. Et c'est pourquoi on a tort de nous faire dire « je crois en l'Église ». Ce petit mot « en » ne peut être utilisé que pour la foi en Dieu. Croire en Dieu a un sens très fort. Ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est adhérer à lui, fonder sur lui toute notre confiance, vouloir ne jamais être séparé de lui. Nos frères protestants nous ont beaucoup reproché, en disant que nous croyons en l'Église, de mettre l'Église à parité avec le Christ. Et il y a du vrai dans ce reproche. Alors, que faudrait-il dire ? Il faudrait dire non pas « je crois en l'Église », mais « je crois l'Église », au sens où je crois ce que l'Église me dit en me donnant en partage la parole même de Dieu. Jésus, en effet, a dit à ses disciples « Qui vous écoute, m'écoute, qui vous rejette, me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Luc 10, 16. Il faut cependant aller plus loin. Car l'Église n'est pas étrangère à cette parole qu'elle proclame, comme si elle n'en était que l'enveloppe extérieure. Si le Christ a lié sa vie à celle de l'Église au point d'en faire comme son corps, alors l'Église n'est pas simplement son porte-voix, dissociable de lui. Le Concile Vatican II l'a admirablement exprimé en parlant du mystère de l'Église. Le mot « mystère » est l'équivalent du mot « sacrement » dans nos langues latines. « Sacrement », c'est-à-dire « signe et instrument », dit le Concile, « de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain ». C'est dans la Constitution sur l'Église, Lumen Gentium, au numéro 1. Comme l'écrit un théologien contemporain, l'Église n'est pas Dieu, mais elle n'est pas pour autant seulement humaine, elle est le grand organisme de la grâce. La grâce. Parler de la grâce, c'est parler de l'Esprit-Saint. Nous tenons là une clé qui relie le troisième article du symbole, celui sur l'Esprit-Saint, avec ce qui est dit de l'Église. Dans les premiers siècles de l'Église, on demandait aux candidats au baptême de dire s'ils croyaient en l'Esprit-Saint qui opère dans la Sainte Église. C'est saint Hippolyte de Rome qui, au IIIe siècle, nous rapporte cette interrogation baptismale. Ainsi, on distinguait et reliait en même temps la foi en l'Esprit-Saint et la certitude qu'il agit dans l'Église. On peut citer aussi les paroles célèbres de saint Irénée, qui est mort en 202, « Là où est l'Église, là aussi est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église et toute grâce, et l'Esprit est vérité. » D'ailleurs, dans son texte original lui-même, le symbole de Constantinople ne partage pas le scrupule que je viens d'exprimer. Il dit « Nous croyons en l'Église ». Il ne fait pas de distinction entre croire l'Église et croire en l'Église. Et il dit sans embâge « Nous croyons en une Église sainte, catholique et apostolique. » Saint Ambroise en donne la raison en écrivant, je cite, « Celui qui croit en Dieu créateur croit aussi en l'œuvre du Créateur. » Voilà quelqu'un, Saint Ambroise, qui ne court pas le risque de dissocier l'Église de son fondateur. Cela attire notre attention sur la contradiction qu'il y aurait à croire à la fois que le Christ a voulu l'Église et qu'il s'est trompé en la voulant. Pour illustrer le propos, nous pouvons aussi faire référence à nous-mêmes. En croyant en Dieu, eh bien, nous sommes aussi invités à croire en nous, non pas en nous faisant égaux à Dieu, mais en présupposant que Dieu n'a pas fait d'erreur en nous créant et en nous donnant une vocation à partager sa vie. Nous rappeler cela présente le grand avantage de nous éviter de désespérer de nous, ce qui peut nous menacer parfois. Il reste juste cependant de mettre en garde contre l'expression « je crois en l'Église » et d'y voir une mauvaise traduction. Cela tout simplement parce que l'Église n'est pas Dieu et ne saurait être confondue avec lui, même si elle est son œuvre et si nous devons la croire et l'aimer pour cette raison. Mais quel crédit pouvons-nous, devons-nous faire à l'Église? Cela nous ramène aux quatre notes déjà mentionnées et contestées, une, sainte, catholique et apostolique. Allons tout droit au plus difficile, la Sainte Église. Quelle suffisance, pensons-nous. Et pourtant, ce mot est inséparable de la compréhension que l'Église a d'elle-même. En confessant sa propre sainteté, l'Église, en effet, ne fait pas un acte de foi en elle, mais en celui qui la rend sainte, à savoir l'Esprit-Saint. Cela signifie que déclarer l'Église sainte ne veut pas dire canoniser du même coup tous ceux qui en font partie, mais c'est dire qu'elle est le canal très sûr de la sainteté de Dieu qui se communique à l'homme. Et cela nous renvoie à la notion de sacrement. Les sacrements sont des canaux de sanctification pour ceux qui les reçoivent. L'Église de même est canal de sainteté, quoi qu'il en soit de la sainteté de ses membres et en particulier de ses ministres. L'absolution des péchés donnée par un prêtre lui-même grand pécheur est aussi efficace et totale que l'absolution donnée par saint Jean-Marie Vianney ou tout autre prêtre canonisé par l'Église. Il en va de même pour l'Eucharistie et pour tout autre sacrement. Mais il est clair que la consécration d'une personne dans le sacrement de l'ordre contient en elle-même une exigence particulière de sainteté. Imitez dans votre vie ce que vous accomplirez par ces rites, dit l'évêque au nouveau prêtre, en lui remettant la coupe et la patène pour la célébration eucharistique. imitez dans votre vie ce que vous accomplirez. Ces paroles se passent de tout commentaire. La catholicité de l'Église est inséparable de sa sainteté. Là encore, il n'est pas question de prétendre que cette catholicité se réalise dans chaque membre de l'Église de façon irréprochable. Peut-être faut-il rappeler que le mot « catholique » ne signifie pas simplement « universel », mais littéralement « selon la totalité ». Chaque cellule d'Église et chaque membre de l'Église est ainsi de plein droit « selon la totalité », c'est-à-dire que l'Église tout entière est présente et agissante en lui pour le salut de tous. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, déclare la première lettre à Timothée, Timothée 2,4. Chacun des groupes et chacune des personnes qui font partie de l'Église sont au service de ce salut. Ce qui veut dire que la volonté divine de salut ne peut être mesurée par les limites visibles de l'Église, elle est catholique et elle n'a d'autres limites que les limites de l'humanité elle-même. Alors, faut-il cesser de critiquer l'Église ? Eh bien, je pense qu'il faut d'autant plus la critiquer qu'on est convaincu que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en elle et qu'on la voit négliger de puiser dans ce trésor. Mais aussi, je pense que nous n'avons le droit de la critiquer que dans la mesure où nous laissons cette critique nous remettre en question nous-mêmes et où nous portons avec le Christ la souffrance du décalage entre ce que l'Esprit-Saint nous donne et l'usage que nous en faisons. C'est une autre manière de désigner notre péché et d'en appeler à la miséricorde.